me a cigarette then. Give me a cigarette then.
Salut la compagnie, c'est Lilian Lloyd et bienvenue sur ce Lloydcast épisode 3. Bon, c'est fini, tu n'arrives plus ici par hasard, hein. Si ? Bon, alors je te conseille vivement d'aller écouter l'épisode 0, qui est l'épisode de la présentation et qui va tout te dire sur ce qu'est un Lloydcast, pourquoi, comment et à quelle fréquence. Je te rappelle que dans le Lloydcast, il y a deux catégories, les résonances, qui sont des sujets que j'aborde seul en espérant que ça résonne chez toi, et les remarquables, qui sont des échanges avec des personnalités que je trouve donc remarquables et ou inspirantes. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir une personne incroyablement remarquable. C'est une personne, mais sa pilosité héritée de longues générations de pâtres grecs, comme chanterait l'autre, atteste bien qu'il est un homme, un bonhomme même. Michel-André Jouveau, bonjour.
Salut Lilian. J'essayais de te le faire un peu fumeux, tu vois, pour cacher les effets de la grippe.
Voilà, c'est ça. Déjà, c'est gentil de me recevoir alors que t'es encore un petit peu grippé.
Tu me diras ça quand tu seras malade à ton tour.
Et en plus, tu me reçois dans ton antre. Ouais. C'est chez toi, c'est ton studio, et c'est même pour ça que le son va être meilleur, parce que jusqu'ici, les deux autres remarquables que j'ai pu faire, c'était via Skype. Donc, on est entouré de synthétiseurs, c'est un endroit que j'aurais aimé avoir quand j'étais petit. J'imagine que c'est celui dont tu as toujours rêvé, et aujourd'hui, à l'âge de 27 ans, comme moi, tu as réussi à l'avoir. Tous mes invités ont 27 ans.
C'est ça, d'accord, voilà. Hors taxe. Ok.
Alors, je vais faire une petite présentation de toi et ce pourquoi tu es là, parce que déjà, tu es un compositeur, un chanteur, un auteur aussi, donc de chansons. Tu as plusieurs groupes à ton actif. Mais avant d'arriver là, tu as eu une vie avant, et comme tout bon anarchiste gauchiste, tu as travaillé pour le grand capitalisme.
C'est ça.
Mais ta grande passion ensuite, c'est la musique. Et aujourd'hui encore, tu es à ton compte, tu es consultant en musique, tu travailles dans la pub, etc. Mais tu passes aussi le plus clair de ton temps à travailler sur des groupes. Alors, il y a eu Consumer Republic, je crois, qui s'est arrêté récemment. Mm-hmm. Et désormais, maintenant, la grosse actualité pour toi, c'est un groupe qui s'appelle Trunk. T-R-A-N-K, et je suis sûr qu'à chaque fois, on va te demander qu'est-ce que ça veut dire, et tu vas répondre.
En fait, je réponds un truc différent à chaque fois, parce que la vérité du truc, c'est qu'on aime beaucoup la sonorité du mot, et qu'on l'a un peu trouvé par accident. Si tu veux, je t'invente une histoire, mais
là, t'as déjà donné, t'as spoilé tout le truc, donc...
Ouais, je me suis dit que j'allais te donner une exclue, quand même.
Donc, comment notre connexion à nous, comment on s'est rencontrés, c'était il y a quelques années, suite à un concert de Depeche Mode, mais on va y revenir sur Depeche Mode, parce que c'est quand même un lien très fort qui nous unit, et qui nous amène à être ici, parce que j'avais fait un petit article, moi, sur Internet, qui a été relayé par le Nouvel Obs, où je parlais d'un concert de Depeche Mode auquel on avait assisté toi et moi alors qu'on ne se connaissait pas. Mmh. Et puis un monsieur qu'on appellera des trolls, enfin un troll, avait dit du mal de Depeche Mode et tu l'avais remis en place de manière tellement magistrale que on est devenus très très amis par la suite. Et puis on s'est mis aussi à travailler ensemble.
Ouais.
Sur des musiques de pièces, des pièces que j'ai écrites, que j'ai mises en scène. Il y a eu Viens, on s'en fout.
Mmh.
Et donc Le Clan.
Mmh.
Voilà, qui sont les pièces. Et puis aussi d'autres morceaux, enfin d'autres petites choses sur lesquelles on... Alors, il y a une petite tradition dans le Lloydcast, c'est je te demande qu'est-ce que tu veux boire.
Alors là, tout de suite, je prendrais bien, c'est horrible, hein, mais une infusion de thym.
C'est hyper sex, drogue et rock'n'roll.
C'est hyper sex, drogue et rock'n'roll. La vérité, comme tu l'entends, parce qu'on se connaît mm-hmm. assez pour que tu saches que d'habitude, je parle pas exactement comme le chanteur des Pet Shop Boys, alors que là, si, un peu quand même. J'aime beaucoup les Pet Shop Boys, hein, c'est pas le problème.
Ouais.
Mais je sors d'une grippe carabinée et j'ai la voix complètement en vrac. Et le thym, qui est une boisson que, à titre personnel, je trouve parfaitement immonde, est un truc, mais alors vraiment fantastique pour retrouver sa voix quand elle est un peu fatiguée. Ça fait une douzaine d'années maintenant que j'utilise ça. Et je me suis pas habitué au goût pour autant, mais c'est vraiment miraculeux.
Alors tu vois, je te présente comme un rocker, et l'une des premières choses dont on parle, c'est quand même un thé avec du thym.
C'est pitoyable, je sais.
On est en 2018.
Mais en même temps, c'est très punk. D'une certaine façon.
D'accord, ouais, c'est une autre façon d'être punk.
Aller à l'encontre des attentes, les gens tout de suite, quand tu parles de rock, on s'attend à du Jack Daniels, des gros cigares, de la coke, du machin. Non, non, moi c'est les deux marmottes.
Alors justement, comment t'es arrivé à la musique?
Elle est arrivée à moi bien avant que j'arrive à elle. J'ai commencé par en écouter beaucoup. Déjà quand j'étais tout gamin et encore plus au moment de l'adolescence. Je fais partie des gens qui n'ont pas particulièrement adoré leur adolescence, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas du tout une victime ni quoi que ce soit, j'avais plein d'amis, ça se passait en théorie très très bien, sauf qu'en pratique j'étais...
Tu veux dire que tu as grandi et tu t'es arrêté à la taille
alors,
que tu as là
actuellement ? Alors, grandi pas vraiment, je me suis arrêté à 1m2, mais non, j'étais un adolescent qui était assez... ça se voyait pas forcément à l'extérieur, mais j'étais assez complexé et tendu et très angoissé. Et la musique a joué un rôle incroyable pour moi pour arriver à dépasser ça, précisément parce qu'elle me permettait d'accéder à une espèce de niveau, ça va faire un peu prétentieux, mais à une sorte de catharsis que je comprenais pas tout à fait, donc je comprenais pas tout à fait la nature à l'époque, mais qui a été vraiment salvatrice. Tu parlais de Depeche Mode tout à l'heure, je me souviens qu'à l'époque où j'étais adolescent, mon frère, à qui je dois d'avoir entendu mes premiers disques de rock quand on était tout gamin, parce qu'on partageait la même chambre, qui écoutait beaucoup de Police, qui écoutait Pink Floyd, qui écoutait AC/DC, c'était assez varié. D'ailleurs, des artistes que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Mon frère était animateur sur l'une des premières radios libres dans la ville où on habitait à l'époque, qui était Nîmes, dans le sud de la France. Et il était très branché, comme tous les animateurs de sa station, sur tout le funk du début des années 80. Allez, Kool & The Gang, Chalamar et tous ces trucs-là, qui à l'époque me parlaient pas du tout. Quand j'entendais ça, j'avais un peu la même impression quand je tombais sur des émissions de Maritier et Gilbert Carpentier à la télé, avec des gens en paillettes qui affichaient des sourires crétins parfaitement factices, et qui parlaient sans doute à plein de gens, mais pas à moi. Et je me souviens de la première fois que j'ai entendu un morceau de Depeche Mode, que j'ai identifié comme tel, c'était en 1983, et je suis devenu instantanément fan parce que je trouvais absolument fabuleux d'entendre une musique qui était à la fois aussi sombre et angoissée et torturée que moi je pouvais l'être, ou en tout cas que moi je pouvais me sentir, tout en étant une chanson de pop parfaite, hyper accrocheuse, irrésistible, qui avait rien à envier du point de vue production, même si pas des mots que j'aurais employés à l'époque, mais qui sonnait largement aussi bien, voire beaucoup mieux que tout ce qui pouvait passer à la radio par ailleurs, mais qui me parlait parce qu'elle mettait mon angoisse en forme. Et puis il y avait une espèce de bizarrerie dans le son, il y avait un travail sur la recherche sonore avec des choses qu'on n'avait jamais entendues auparavant. Alors, il y a d'autres gens qui ont fait de la musique électronique avant eux, comme je l'ai découvert par la suite. Ils ont pris leur inspiration chez tout un tas de gens bourrés de talent, les Kraftwerk, les Bowie, les Human League, les gens comme ça. Mais il y avait pour moi à l'époque cette espèce de mélange absolument extraordinaire de noirceur et de bizarrerie et de présenter une façon qui était totalement accrocheuse et dans laquelle je me retrouvais entièrement. Et je savais pas que la musique pouvait faire ça. Je savais pas qu'on pouvait s'y retrouver à ce point-là. Et ben, du coup, c'est le groupe qui m'a mis à la musique, qui a développé chez moi un aspect un peu obsessionnel par rapport à la musique, à la pop et au rock en particulier.
J'ai un copain qui me dit exactement la même chose que toi, mais c'est pour Mylène Farmer.
Mais je comprends.
Non, mais c'est l'angoisse. En fait, ça pourrait ressembler à une blague, hein, ce que je dis, mais l'espèce de d'univers qu'elle-même aussi a développé. Enfin, on en pense ce qu'on veut.
Elle est elle-même très fan de Depeche Mode.
Et donc c'est assez drôle parce que j'entends les mêmes mots. Enfin, tu vois, il y a comme quoi c'est fou. Enfin, ça fait partie des questions plus tard, peut-être aussi que j'ai. Mais un truc qui te change ta vie d'un coup, tu vois, c'est un groupe, c'est une musique, et puis tu trouves une espèce de corrélation ou en tout cas de parallélisme avec tout ce que tu ressens.
Ouais,
toi,
avec ta vie, avec tes propres émotions. Et
il y a voilà. Dans l'art et la musique, il y a quelque chose de tellement direct.
Et puis il y avait aussi. C'est marrant parce que tu vis au moment de ton adolescence, je pense d'ailleurs que ça continue pendant une bonne partie de ta vie, mais tu vis souvent des choses que tu n'es capable d'articuler et de comprendre que bien plus tard. J'ai entendu récemment une interview de Dave Gahan, donc le chanteur de Depeche Mode, qui était fort intelligente et qui expliquait qu'il y avait une bonne partie de leur public qui se retrouvait chez eux parce que d'une certaine façon, ce que leur disait la musique de Depeche Mode, c'était « mais on sait que vous vous sentez bizarre, vous vous sentez un petit peu à part, vous vous sentez pas forcément bien ». À la place que la vie vous a donnée, mais c'est normal, ça va aller. C'est bien d'être bizarre, c'est pas un problème. Au contraire, c'est bien. Et il y avait quelque chose de formidablement rassurant là-dedans. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de leur musique qui est restée, qu'ils ont explorée et développée de toutes les façons possibles et imaginables depuis, ce qui fait que je suis toujours fan.
Et justement, pardon, je te coupe, mais,
bien sûr.
Mais pour essayer de prendre un petit raccourci, parce que je te connais, t'es très bavard.
Ah oui, là, on
aussi.
Peut être là pour 24 heures. Ouais.
Mais, et je fais déjà des épisodes vachement longs. Mais non pas que c'est pas intéressant, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, dans ta vie, dont t'as un parcours d'études, je crois, dans.
J'ai fait Sciences Po Paris, moi.
Sciences Po, voilà, c'est ça.
Puis, et après, puis Subdeco Paris.
Voilà, et après, t'as bossé dans une grande boîte, une grande boîte américaine, machin. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu dis. Bon, même si j'ai 27 ans, j'ai 40 et quelques années, je décide de me mettre. Alors, je crois que c'est d'abord avec Consumer Republic que tu as commencé. C'est plutôt un groupe de reprise à la base.
Ouais, ouais.
Et y a eu ensuite un EP, je crois.
C'est ça.
Voilà. Et qu'est-ce qui fait que d'un coup, après, tu vires encore, tu vas beaucoup plus loin, tu arrêtes de bosser, enfin, tu te mets à ton compte plus exactement, et que d'un coup, tu te dis, bon, bah voilà, ce que des mecs font à 20 ans, je le fais 20 ans ou 25 ans plus tard.
Ça a toujours été un fantasme chez moi de faire ça.
Comme ça a été. Tu comprends qu'il y a plein de mecs qui peuvent dire, ça, c'est le mec, il va dans les deux pieds dans la tombe en disant, ça a toujours été un fantasme.
Bien
mais
sûr.
Mais toi, d'un coup, tu sautes le pas.
Bah, moi, j'ai eu peur de ça. Ouais. Moi, j'ai eu peur de me retrouver un pied dans la tombe. Et de regarder en arrière et de me dire que j'avais eu l'opportunité de faire des choses comme ça et que j'avais loupé.
Ouais.
Ça n'a pas été mon premier choix de carrière, d'abord parce que je ne pensais pas du tout avoir la capacité de le faire. Sachant que j'ai commencé avant même de commencer à chanter, des années avant de commencer à chanter, j'ai commencé à triturer des machines, des synthés, des choses comme ça, parce que d'abord j'avais aucune idée du fait que je serais éventuellement capable de chanter.
Justement, de quel instrument tu joues? C'est
alors,
clavier par
Ouais, tout ce qui est technologique. Ouais. Clavier, synthé, machine, etc. Je suis pas du tout un claviériste remarquable, très loin de là.
Mais tu joues très bien du triangle.
Je suis pas mauvais au triangle. Ouais. C'est pas simple, hein, le
triangle.
Non, c'est pas simple. Je suis pas mauvais au shaker non plus. Ouais. Surtout s'il est en forme d'œuf. J'aime bien, je m'entends bien avec les machines, de façon générale. J'ai une espèce de compréhension un peu instinctive entre elle et moi qui fait que programmer de la séquence, créer des sons, ça me vient relativement naturellement. Et je pense en termes de construction mélodique assez facilement. Je lis pas les notes, j'ai pas de formation au solfège ni quoi que ce soit. Mais l'un des trucs que j'ai commencé à faire relativement tôt quand j'ai commencé à écouter de la musique, ça a été d'essayer justement de comprendre comment elle était construite pour me faire ressentir ce qu'elle me faisait ressentir. Et donc en prenant l'habitude de déconstruire, bon, à toi et moi grandi dans les années 80 où a explosé la culture du remix, l'un des gros avantages de la culture du remix telle qu'elle se pratiquait à l'époque, c'était que un remix avait souvent tendance à décortiquer un morceau dans ses différentes parties pour finir par les rassembler tout ensemble à la fin. Moi, ça m'a donné énormément de compréhension justement de la façon dont comment fonctionnait une orchestration, comment certains sons se complétaient par rapport à d'autres, etc. Bon. Donc j'ai commencé à bricoler à côté de mes études, puis à côté de mon taf, en faisant de la musique électronique dans mon coin parce que je me voyais pas faire autre chose.
Et le basculement?
En fait, c'est un ami qui. C'est assez comique comme histoire, qui jouait dans le groupe, le groupe qui faisait les soirées de la boîte dans laquelle je travaillais à l'époque, hein, qui était bassiste, et qui m'a entendu fredonner un truc pour un copain un jour sur un morceau. Le copain en question n'arrivait pas à placer sa voix correctement, et je l'ai aidé, sans trop me poser la question de savoir comment ça se faisait. Et c'est mon ami Fred, qui était bassiste de ce groupe-là à l'époque, qui m'a entendu, qui m'a dit mais tu sais chanter en fait, toi. Et il dit, bah non, juste. Mais si, tu sais chanter, viens à côté dans la salle de répète, on a besoin d'un truc. Et puis qui m'a embarqué dans la préparation d'un concert pour lequel ils avaient besoin d'un chanteur qui soit capable de monter relativement haut. C'était deux morceaux, il y avait un Beatles et un. Qu'est-ce que c'était? Un Beatles et un Cure. Et c'est comme ça que j'ai fait l'expérience du chant la première fois, ce qui était relativement tardif, je vais avoir 28 ans. Quelque chose comme ça. À partir de ce moment-là, ça a commencé à prendre une place de plus en plus importante dans ma vie. J'ai commencé, effectivement, je me suis monté avec des amis un groupe de reprises, Consumer Republic, qui a duré une dizaine d'années, qui était une attraction assez populaire sur le circuit des petites salles de concert à Genève.
Oui, parce qu'on est à la frontière suisse, j'ai même pas précisé. Tu habites à
Saint-Julien, en Genevois, ouais, juste à côté de Genève, où je suis venu travailler il y a déjà des années de ça.
Ouais.
On est allé assez loin avec ce groupe-là. On a gagné une compétition qui nous a emmené au Rock'n'Roll Hall of Fame à Cleveland. On a vécu des trucs assez, assez incroyables pour un groupe, on va dire, semi-amateur. Et au fil du temps, non seulement j'ai commencé à passer de plus en plus de temps à créer de la musique à la maison sans jamais forcément la faire écouter à qui que ce soit avec les machines qui m'entouraient déjà à l'époque, mais j'ai vraiment pris goût au fait de faire du chant et au fait de faire de la scène. D'abord parce que quand tu fais du chant, il se passe. On parlait de catharsis tout à l'heure, on parlait du fait d'être capable de transcender des émotions pas forcément très positives que tu peux être capable de ressentir grâce à telle ou telle musique qui va justement te permettre à la fois de les embrasser et de les dépasser. Le chant, c'est ça, mais à la puissance 1000. Quand tu fais du chant, tu peux aller fouiller vraiment dans le très fond de tout ce qu'il peut y avoir de plus noir et de plus sombre et plus horrible au fin fond de ton estomac et te le sortir du système. Et au passage, il y a une espèce de truc un peu alchimique qui se passe et que tu transformes ça en une sorte d'énergie positive à laquelle les gens peuvent se raccrocher. Cette expérience-là, elle est incroyable. Et une fois que tu l'as vécu et que tu te rends compte que t'avais beau pas t'y attendre, t'es capable de le faire a priori d'une façon qui plaît. Personne n'aime le son de sa propre voix, mais tu vois l'effet que ça peut avoir sur toi-même de le faire et sur les gens de le recevoir. Et puis bon, c'est, voilà, une fois que tu y as goûté, c'est très dur de revenir en arrière. Et puis moi, comme beaucoup de gens aussi qui se retrouvent à faire du chant, je te disais tout à l'heure, j'étais plutôt un ado atrocement complexé et persuadé d'être la créature la plus grotesque et la plus horrible du monde. Et il y a une espèce de, j'allais dire de revanche, c'est pas le mot parce que c'est beaucoup plus positif de ça. C'est à chaque fois que je monte sur une scène et que ça se passe bien et que les gens sont contents, et mentalement quelque part, je passe le bras autour des épaules de mon moi de CM2 en disant bah tu vois, c'est pas si terrible que ça finalement.
Si en CM2 t'étais déjà ado, c'est que t'as dû redoubler pas mal de fois quand même, non?
Non, CM2 j'ai fait un peu le contraire. Moi, je suis allé un peu trop vite et d'accord. Je pense que ça a fait partie du problème d'ailleurs.
Mais justement, par rapport à la voix, enfin pas celle-là qui est grippée, mais moi ça me passionne. J'ai voulu.
T'es conscient que ça fait 15 minutes que je me retiens de pousser comme un porc pour pas faire exploser le micro.
Mais moi, j'ai toujours été. Je pensais que j'allais devenir chanteur. J'ai fait 2 ans de cours de chant avec un baryton où j'ai dû posséder 2 fois une note. Et je pensais avoir la voix de Bono, j'ai à peine eu celle de Dao.
Très belle voix, très fan.
Mais moi aussi, mais bien sûr, complètement. Mais j'imaginais que j'allais retourner un stade avec ma voix, donc j'ai à peine retourné ma salle de bain. mais justement, cette voix, comment tu la travailles? Parce que moi, ça me passionne. L'idée, c'est de ces podcasts, de ces échanges autour des personnes que je trouve remarquables, c'est le making-of.
Tu sais qu'à chaque fois que tu dis ça, j'ai mon ego qui est sur le point d'exploser.
Mais remarquable pour moi. Et j'espère que le but, c'est que des gens qui, voilà, les personnes qui écoutent, à un moment, s'intéressent, se disent, tiens, j'ai envie d'aller écouter, j'ai envie de voir ce que fait un tel, ou, etc. Il va y avoir plein de personnes que je trouve remarquables, pas simplement dans le monde de l'art. Mais justement, comment tu la travailles, cette voix? Est-ce qu'à un moment, c'est un boulot quotidien, comme justement Dave Gann, dont on parle, le fait de manière phénoménal. Est-ce que toi, comment, est-ce que t'as un coach? Comment ça se passe?
Non, alors la réponse, c'est que je ne travaille pas assez. Je fais vraiment le minimum qui consiste à répéter régulièrement avec Trank. Le chant, je m'en sers essentiellement avec Trank.
Et tu chantes en anglais?
Qui est donc le groupe de rock dont je fais partie depuis maintenant 2 ans. C'est un projet qui a commencé, il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Que tu connais bien, parce que tu as même participé au tournage du tout premier clip du groupe. Avec ma voix, je fais vraiment le minimum. J'en ai un peu honte d'ailleurs, à savoir que je travaille pendant les séances de répète avec le groupe. Et puis c'est à peu près tout. Alors, je commence ce truc-là à l'âge où d'autres gens s'arrêtent. Mais en même temps, le fait d'avoir 10-12 ans d'expérience dans un groupe, on va dire semi-pro, puisque c'était ce qui était devenu Consumer Republic, derrière moi veut dire que j'ai un minimum de base et un minimum de flexibilité qui me permettent de m'en tirer. Il m'est arrivé une fois pendant quelques semaines de prendre des cours de chant, c'était une expérience incroyable. Et j'avais énormément progressé à l'époque, puisqu'un bon prof de chant t'apprend tout un tas de techniques qui vont à l'encontre de ton instinct, mais qui en fait te permettent de faire des choses beaucoup plus réussies avec beaucoup moins d'efforts. Et il y a déjà quelques années que je me dis que je vais finir par reprendre des cours avec la même personne.
Pour passer à un
niveau supérieur. Et puis, d'une part et d'autre part, parce qu'il y a certains de ces trucs-là qui s'oublient, on reprend facilement des mauvaises habitudes. Trank, c'est un groupe qui est, c'est pas un groupe de métal, mais ça s'en rapproche un petit peu quand même. Et il est assez facile, avec ce style de chant. Ça reste du chant, il est assez facile avec ce style de chant de faire des choses qui sont pas forcément très intelligentes. Ni sur la qualité de ce qu'on sort, ni sur la préservation de son instrument de travail. Donc voilà, je me dis qu'un jour je vais finir par en reprendre. La prof en question, c'était une chanteuse classique, c'était un petit bout de femme qui devait peser 45 kilos tout mouillé pour 1m55 et qui avait une voix absolument enfin, une beauté absolument incroyable qui m'a énormément appris en très peu de temps. Donc, pas assez, mais ça va revenir.
Ouais.
On va dire ça comme ça.
Au niveau de tes inspirations, ouais. Avant d'être la petite souris, au niveau de tes inspirations, tu es quelqu'un de très éclectique, c'est-à-dire que tu écoutes vraiment de tout. Tu n'es pas bloqué Depeche Mode, machin, tu es au métal, tu es au Beatles, tu peux être à la musique classique, tu peux être au jazz. Tu... Et puis, tu as une connaissance, moi, qui me tue.
Jusqu'à il y a 10 ans, là, je décroche un peu.
Ouais, mais enfin, ce type, tu peux lui parler d'un album, il te dit, non mais attends, le remastering de tel album fait en vinyle en 84 avec Jean-Christophe à l'ingénierition, etc., est vraiment plus intéressant que le pressage de 86. Voilà, t'en es à ce point-là de fondu, de collection, de... Bon, je parle même plus de Depeche Mode, de Bowie et tout ça. Mais donc, t'as quand même t'es quelqu'un d'extrêmement éclectique. Juste à l'heure d'aujourd'hui, vraiment à l'heure d'aujourd'hui, on parlera de Trank un tout petit peu plus tard, mais quelles sont tes inspirations, enfin qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu écoutes quelque chose et tu dis tiens ça j'entends d'autres sons qui vont m'emmener autre part, enfin voilà, ça va vraiment m'inspirer, ça passe à travers ma machine et enfin ma machine émotionnelle et je vais prendre mes claviers et je vais sortir ça. Qu'est-ce qui te motive en ce moment?
Alors ça dépend. Ça dépend si tu parles d'inspiration en termes de texte, en termes de chant ou en termes de création de son. Ah quoi, enfin, qu'il s'agisse de son pour Trank ou de son pour les BO que j'ai pu faire pour toi ou d'autres choses. J'aime bien être surpris, moi. J'aime bien être surpris, j'aime bien être touché. C'est dur d'éprouver ce sentiment de surprise dans un format aussi rigide, aussi codifié que celui de la pop ou du rock où fondamentalement 95% des chansons c'est couplet-refrain, pont, couplet-refrain, fade. Voilà, même la musique classique c'est extrêmement codifié, le jazz c'est extrêmement codifié. Donc ça peut venir d'une idée mélodique qui est tellement belle et tellement simple qu'on se demande comment 1000 personnes l'ont pas faite avant, puis... Soit personne l'a fait aussi bien. Je suis très très fan d'un type qui s'appelle Mark Hollis, qui était le fondateur de Tok Tok, et qui avait dit ce truc très très beau un jour, un peu paradoxal pour un musicien, mais qui disait « Pour moi, le plus beau son du monde, c'est le silence, et mon but, c'est d'arriver à produire la musique qui soit la plus proche du silence, et donc la plus belle, sans en être. » Et il y a dans les derniers albums qu'avait fait Tok Tok avant de se séparer, par exemple, il y a des moments d'une beauté qui est tellement transcendante, tellement, alors qu'on parle de deux accords de piano et d'un frisli de cymbales derrière, mais il se passe quelque chose d'absolument magique dans une intonation de voix de quelqu'un comme Billie Holiday, qui était une chanteuse absolument extraordinaire, dont les ignorants de critiques de l'époque prétendaient qu'elle savait pas chanter parce qu'elle avait cette voix qui était un peu fêlée, un peu cassée, un peu, mais il se passe, il y a tellement d'histoire, il y a tellement de douleur, il y a tellement de vécu qui passe dans la moindre inflexion de la moindre note. Que bah voilà, tu peux y trouver de l'inspiration. Tu peux trouver de l'inspiration. Je dans le pouvoir d'évocation de certains auteurs. On va pas reparler de Martin Gore parce qu'on a, sinon on va passer le reste de la discussion sur Depeche Mode. Mais pour prendre un autre exemple, hein, Leonard Cohen. Dans une ligne de Leonard Cohen, il y a des dizaines de chansons à écrire. Il y a un tel pouvoir d'évocation, il y a une telle capacité à évoquer une existence entière avec 5 mots que ça en est. Enfin, c'est absolument surhumain.
Je suis une petite souris. Ouais. Si je veux voir.
T'es costaud pour une petite souris.
Ouais. Je sais, mais je sors du sport là.
Non, c'est ça.
Mais à quel moment est-ce qu'il y a des rituels? Qu'est-ce que je vais voir si je suis cette petite souris?
Alors ça dépend de ce à quoi je me mets. Si tu me vois écrire des textes, tu vas me voir avec mon... Alors là, c'est ritualisé à mort pour le coup.
Ouais.
J'ai mon petit bloc-notes Moleskine noir, sans lignes. Je supporte pas qu'on me donne des lignes. C'est moi qui mets la structure. Je supporte pas d'écrire sur des cahiers avec des lignes. Alors le pire, c'est les carreaux. Alors là, je deviens dingue. Avec mon petit stylo plume, Cross, qui est une marque que j'aime bien. D'abord parce qu'elle me va bien, et en plus parce que c'est des stylos qui coûtent pas une fortune. Et comme j'ai tendance à perdre les choses relativement facilement, j'aime autant perdre ça plutôt qu'à mon blanc, j'ai l'air moins con. Mais ouais, là, je vais me poser, en général ici, sur le canapé, puis je vais écrire des idées au kilomètre. Jusqu'à ce que un jour arrive une idée de mélodie, soit qu'elle vienne d'un membre de Trank, soit qu'elle sorte de ma tête, qui me fait penser à un petit bout de truc que j'ai écrit. Mmh. Et là, je reprends mon carnet, je m'enferme dans le studio, et de façon générale, avec Tronc, on a tendance à s'envoyer, à s'échanger des idées par fichier son sur lesquels on peut bosser, sur Logic, ou GarageBand pour certains d'entre nous. GarageBand, ça peut être un jouet gratuit, c'est un outil de composition absolument fabuleux. Logic étant son grand frère, donc la version pro que moi j'utilise pour la composition et la production ici. Et puis bah, je vais me mettre mon casque sur les oreilles, me planter en face du micro avec mon petit carnet Moleskine et essayer des trucs. Ouais. Ça, ce serait le rituel typique pour une écriture de chanson. L'autre truc que tu verrais beaucoup, auquel t'assisterais beaucoup si t'étais une petite souris, quand je fais soit de la création de maquettes sur l'ordi, soit de la production de musique, qu'il s'agisse de BO ou de musique de pub, qui est mon autre métier ou quoi que ce soit, c'est t'entendre assez régulièrement des bordées d'injures assez spectaculaires. parce que je suis pas quelqu'un d'extrêmement patient, j'ai tendance à avoir assez facilement un vocabulaire un peu fleuri.
Dépasse pas, je voulais t'en parler juste après.
Il y a un truc assez ennuyeux avec l'informatique musicale, c'est que ça plante beaucoup, même sur Mac, beaucoup sur Mac d'ailleurs depuis ces dernières années. Moi, je suis un utilisateur Mac depuis pratiquement toujours, et là, ça fait 5 ans qu'ils mettent un point d'honneur à essayer de me faire passer chez la concurrence avec leurs upgrades de merde et leur soi-disant amélioration produit dont personne ne veut. Donc assez régulièrement, il y a des bordées de jurons qui filent en direction de la machine parce que je me suis fait planter au milieu d'un enregistrement qui se passait pourtant particulièrement bien. De façon générale, outre cet aspect-là, c'est vrai que j'aime bien, le studio, c'est une toute petite pièce, je suis littéralement entouré de machines, et j'aime bien ça. J'aime bien venir m'enfermer ici et bricoler avec des claviers pour créer des trucs, pour créer cette espèce d'alchimie, pour faire en sorte que quelque chose se passe. Tu me demandais pourquoi j'étais parti de mon boulot pour faire ce genre de choses tout à l'heure. J'ai eu peur de pas vivre ça. Mmh. J'ai eu peur de me retourner à 70, 75 ans, regarder en arrière et me dire, voilà, pendant toute ta vie, t'as suivi un parcours qui a été ce dont t'as eu besoin pendant un long moment, puis qui à un moment a arrêté de l'être. Il y avait autre chose que tu voulais faire et t'avais l'occasion de le faire et tu l'as pas fait. J'ai eu peur de ça. À l'époque où je suis parti, je me souviens, il y a plein de gens qui d'ailleurs voulaient être sympas, tu vois, c'était voulu comme un compliment. C'est, oh là là, mais c'est incroyable, c'est courageux ce que t'as fait. Non, c'est pas courageux, je suis parti par trouille. Parce que, pendant des années, ça a marché pour moi, le fait de l'ascension sociale, le fait de rencontrer une certaine forme de succès professionnel, machin. C'est, on avait des parents qui étaient d'extraction super popu. Ma mère, elle est fille d'immigrés grecs qui bossaient dans les marais salants en Camargue, qui sont arrivés en France au début des années 10. Mon père était fils de paysans normands super pauvres. Ils sont tous les deux arrivés à monter les premiers échelons, on va dire, de la société. Ils avaient beaucoup d'ambition pour nous, donc ils ont poussé à mort pour qu'on fasse des études, pour qu'on... Voilà. Et puis, bah ouais, tu réalises d'une certaine façon les ambitions de tes parents, tu suis ton truc, et puis tu te rends compte qu'il y a vraiment quelque chose qui te manque, et qui te manque au point où la moindre minute de temps libre que tu peux avoir quand t'es pas en train de bosser, bah tu la passes à faire ça. Et au bout d'un moment, je me suis bien rendu compte, il y avait des choses que je voulais faire en matière de création musicale, il y avait tout un tas de trucs que je voulais explorer avec le chant, il y avait Tronc qui a commencé à se profiler un peu par surprise, un peu par accident. Et je me voyais pas arriver à gérer tout ça avec le peu de temps et le peu d'énergie que me laissait un travail à plein temps dans une grosse boîte. Le soir et le week-end, c'était juste pas possible. Et j'ai commencé à vraiment prendre peur. Autour de mon 40e anniversaire, chacun vit sa crise de la quarantaine à sa façon. Mais ma peur à moi, elle s'est manifestée comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans 35-40 ans quand tu vas te retourner, que tu n'auras plus d'énergie pour faire tous ces trucs-là, et que tu regarderas l'opportunité que tu as laissé passer à l'époque. Je suis parti pour ça.
Ouais, non, c'est. Je trouve même que c'est assez important parce que. J'aime bien que tu dises ça parce que c'est pas quelque chose que tu m'avais dit auparavant. Enfin, tu utilisais pas le mot trouille.
Mais tu ne sais pas tout.
Mais je sais bien, on a encore plein de choses à découvrir l'un de l'autre. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que le sex, drug and rock'n'roll existe encore? Et est-ce que tu pratiques? Alors. Peut-être l'un des trois ou les trois.
Comment je vais répondre ça sans que ça se termine par un divorce? Non, je plaisante.
Ça peut être sexe avec ta propre femme, hein, y a pas de problème.
Non, ça, de ce point de vue-là, je te confirme qu'il n'y aura pas. Ça, c'est pas du tout problématique. C'est pas le style de vie ou les clichés sur le style de vie qui m'ont attiré.
Ouais.
Qui plus est, le fait est que ce soit moi ou dans une moindre mesure les autres d'entrants, qu'on commence tous ce truc-là à l'âge où plein d'autres gens s'arrêtent, précisément parce qu'ils sont carbonisés par le style de vie en question,
ou parce qu'ils sont morts,
ou parce qu'ils sont déjà morts, voilà. Auquel cas ça devient difficile d'enregistrer les disques.
Quoique, le nombre d'albums de Jeff Buckley qui sont sortis.
Oui, voilà.
Après sa mort.
Puis Prince en hologramme et tous ces trucs-là. D'ailleurs, Elvis n'est pas mort, comme tu le sais.
Ouais.
Il boit des thés à la menthe avec le Yeti quelque part à Marrakech. Non, c'est pas le style de vie sex, drugs, and rock'n'roll qui m'attire dans tout le truc. Tout le monde a eu ce fantasme adolescent. Alors, les filles qui se jettent sur toi parce que t'es la vieille star sur scène. C'est l'avantage, en fait, de commencer à nos âges. C'est qu'on approche le truc vraiment par passion pour ce qui se passe quand t'es sur scène et que tu joues une chanson qui a été créée par le gang qui est sur scène et que tu vois la réponse des gens et que les gens ont envie de partager ce moment de communion avec toi.
Donc là, c'est aussi ce moment de communion, c'est un moment de
c'est un moment de high énorme et c'est très sexuel
c'est
par
très
nature.
Sexuel et ce moment de rock'n'roll aussi.
Pour moi, alors là, je vais te répondre comme ça. Du coup, pour moi, la partie sex and drugs, elle est dans le rock'n'roll. Elle est dans le moment de performance, justement. Ce moment de high là, il est là, il se passe sur scène.
Et quand je reviens juste 10 secondes en arrière, mais quand tu parles de voilà, il y a 10, il y a 3000 personnes sur scène.
Ouais.
Bon, moi, je suis aussi comédien, donc il m'arrive de jouer certaines. Merci.
Bah non.
Il m'arrive de jouer mes pièces et il va y avoir, 10, 20, 30, 100. Il n'y aura pas 3000 personnes encore. Malheureusement, on ne joue pas dans des zéniths. Mais ce ressenti qu'on a, et parfois quand on est. Bon, nous, on joue des rôles, des choses comme ça. Je pense que parfois aussi, tu joues des rôles, tu interprètes aussi.
Ah, bah, pas parfois. Et... La personnalité que tu mets sur scène, alors ça ne demande pas du tout le même niveau de maîtrise technique que que ce que tu fais toi demande. Le parallèle, cela dit,
même
si
technique.
Alors oui, enfin, mais tu vois, il y a pas la personne qui monte sur scène quand t'es dans un groupe, c'est pas toi et c'est pas une personne différente non plus. C'est juste, il y a un côté un peu Jekyll and Hyde en particulier quand tu fais une musique qui est un peu outrancière, que ça soit dans la noirceur, dans la colère, quoi que ce soit. Tu prends
une partie de toi,
un aspect de ta personnalité qui normalement doit peser 10 grammes, et puis c'est à cet aspect-là que tu dis pour les deux prochaines heures, c'est toi qui conduis.
You're behind the wheel.
J'allais la faire.
Ouais.
Et voilà, mais je pense que ça doit un peu se rapprocher d'une certaine façon. Je pense que pour habiter vraiment un rôle.
D'une certaine façon, tu
trouves le point de jonction entre ta personnalité.
On fait appel à quelque chose et tout ça. Et,
voilà.
Et là, le parallèle que je voulais faire, avant que tu me coupes de manière très grossière, on sort, on est vidé, et en même temps, il y a une émotion, il y a un truc très fort. Et je pense beaucoup à cette interview qui m'a vachement marqué de Brian Molko, le leader de Placebo, qui disait, j'ai écrit une chanson, je suis au plus noir de moi-même, etc. Je la compose, on l'enregistre, elle est sur l'album, je me retrouve le soir au concert, il y a 50 000 personnes devant moi qui la reprennent en chœur.
Ouais.
Je rentre ensuite à l'hôtel, je suis tout seul, comment voulez-vous que je me drogue pas? C'est là aussi où je me dis, il y a un gap qui est. C'est quelque chose qui m'a vachement marqué parce que je me dis, c'est vrai que tu vas tellement loin
dans l'émotion.
Dans l'émotion et dans le ressenti, dans cette empathie partagée entre un mec qui est tout seul en train d'écrire sa ligne de texte, machin. Et puis, t'as 50 000 personnes qui font... l'autre qui chante « I'm a creep » et t'en as 50 000 qui chantent « I'm a creep
ouais. ».
Ça te renvoie aussi à toi, tu vois.
Bien sûr.
« I'm a creep ». Et comment tu fais derrière? Je me dis, c'est une émotion tellement intense, à mon avis, de celle de chanteur, de celle de musicien. Et moi, en termes d'acteur, au bout d'un moment, je rentre chez moi, je me suis lavé, j'ai pas eu un public qui s'est levé, qui a chanté ou quoi que ce soit, et qui a pas repris encore.
Non, mais t'as une forme de connexion qui est quand même très très forte.
Enfin, oui, qui est un peu autre. Parce qu'il y a une empathie sur la musique. Je l'ai jamais éprouvé parce que je suis incapable de faire ce que tu fais, et je me dis, si t'as 200 personnes qui reprennent, 300, enfin 1000, tout ce que tu veux, tu rentres chez toi, tu dois être, t'as un truc où t'es...
Mais je pense, on n'a pas encore fait l'expérience de ça avec Trank. J'espère que ça sera le cas bientôt parce que les choses ont l'air de décoller pas mal pour nous en ce moment. je peux tout à fait comprendre que ça soit l'une des motivations pour lesquelles les gens commencent à tomber dans tel ou tel plan de drogue. Il y a ça, puis il y a l'ennui. Mmh. Parce que fondamentalement, on va employer un mot horrible, mais le business model du groupe de rock qui réussit jusqu'à il y a quelques années, c'était cette espèce de schéma un peu non-stop, studio, album, tournée, studio, album, tournée. Et une tournée mondiale pour un groupe de rock, c'est absolument épuisant. Il y a cette phrase célèbre de Charlie Watts qui répondait à un journaliste qui demandait, à l'époque, ça faisait 30 ans qu'il était dans les Stones, donc alors ça fait quoi d'être dans les Stones depuis 30 ans? Charlie Watts dit, bah, je sais pas, j'ai été dans les Stones pendant 2 ans, le reste du temps, je me suis fait chier dans les aéroports. Ouais, il y a un côté, il y a un ennui, une routine, un truc. Enfin, c'est vraiment horrible. Tu vois, nous, on vient de tourner 3 clips avec Trunk, là. On a 3 singles qui vont sortir à partir de la fin du mois de mars. Et jusqu'à l'été, qu'ont tous été enregistrés, mixés et clippés dans la foulée. Et l'expérience de tournage des clips, qui était pourtant très sympa, c'était avec une équipe, avec un réalisateur qui était vraiment extraordinaire. On était très très bien doué, on avait notre management avec nous, etc. Ouais, tu passes 80% de ton temps à attendre que d'autres gens fassent leur travail pour que le truc devant la caméra puisse bien se passer. Donc je comprends tout à fait qu'il y ait ce côté à la fois l'ennui de la routine et puis le contraste absolument gigantesque entre le high énorme que tu peux prendre sur scène et la déprime absolue du retour dans la chambre d'hôtel. Après, moi j'ai bien passé les 40 balais. On va dire que je vais compter sur le fait que j'ai peut-être un... On a peut-être un peu plus la tête sur les épaules que des gens qui, comme Brian Molko, que j'admire beaucoup par ailleurs, démarrent ce truc-là quand ils ont 19 ou 20 ans.
On va terminer avec quelques questions, avec quelques réponses rapides, mon cher Michel.
C'est pas mon fort, ça, comme tu
dis. Ouais, je vais essayer. Ça va être facile. Déjà, c'est un petit quiz.
Ouais.
J'ai une petite question.
Ouais.
Qui a dit « Sans la vie, la musique serait une erreur » ? Un indice, c'est pas Pascal Obispo.
Non, ça doit être Nietzsche, ça.
Bravo. Ouais. T'es d'accord ?
Ah, complètement, moi je peux pas vivre sans ça. Mon cauchemar récurrent, c'est d'être sourd.
Très rapidement, tu es quelqu'un de très énervé. Tout t'énerve. Alors, tu me diras, il y a beaucoup de raisons d'être énervé dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Alors, on va pas développer du tout parce que ça prendrait 76 000 heures. Mais simplement, est-ce que tu penses que un jour il y a un médicament qui t'évitera de t'énerver comme ça ?
Non.
Très bien.
Non, et je pense c'est mon moteur.
Mais pour celles et ceux qui connaissent pas, essayez de trouver Michel André Jouveau sur les réseaux sociaux, allez lire certains de ses posts un peu énervés contre des personnalités, qu'elles soient, n'importe quel genre de personnalité d'ailleurs. Quelques petites questions, t'y réponds au tac au tac.
Ouais.
Si tu gagnes au loto, quelle est ta réaction première ?
Il va me falloir plus de place pour stocker les vinyles.
Est-ce qu'il y a, alors je vois à peu près la réponse, mais est-ce qu'il y a un livre ou un film ou une chanson qui a changé ta vie, si oui, laquelle ?
Un livre, un film ou une chanson qui ont changé ma vie. Alors, tu veux un de chaque ou
non,
parce
non,
que
non,
je peux citer un de chaque. Hein.
Bon, alors vas-y rapidement.
Alors un film, ça serait Blade Runner.
Ouais.
Une chanson, ça serait probablement Never Let Me Down Again.
Mm-hmm. On a la même déjà.
Des précédemment cités. Un livre.
Les accords pour les nuls.
Non, il y en aurait aussi un bon paquet, mais. Quand j'étais ado, le livre qui a changé ma vie, moi, le livre que j'ai relu 15 fois d'affilée, contrairement à la plupart de mes potes qui étaient branchés sur Le Seigneur des Anneaux, voilà, c'était, j'allais dire Dune, je vais dire Les Chroniques Martiennes de Ray Bradbury, qui est un fantastique recueil de poésie en prose qui prend juste le prétexte de thématiques de science-fiction pour faire de la littérature sublime.
Si tu ne faisais pas de musique, tu ferais quoi ?
Wouah! Bah, je serais bien emmerdé. On va partir du principe que c'est des sexuels professionnels n'est pas un métier, donc je ferais du dessin. Mon rêve de jeunesse, c'était de dessiner chez Marvel.
Quel est ton plus bel échec?
Quel est mon plus bel échec? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie de question?
J'aurais dû te l'envoyer avant, en fait. Hein.
C'est-à-dire le truc où je me suis le plus magistralement planté? Ou
ouais, et puis enfin, à toi de voir ce que tu y veux. Hein. Il y a des gens qui entendent là-dedans. Quel est l'échec qui m'a permis d'apprendre le plus de choses aussi, tu vois, c'est pas toujours un échec, il a la valeur que t'as envie de lui donner en termes de violence négative ou pas, hein, tu vois, un échec c'est je me suis planté sur ça, mais j'ai appris tellement de trucs que finalement, c'est pas un échec. Bon, bah, tu me répondras pour l'épisode 5.
Ouais.
Pour une fois, j'arrive à lui faire fermer sa gueule.
Non, mais c'est-à-dire que la liste est longue. C'est vraiment pas de la prétention ou quoi que ce soit. Mais tu vois, là, j'arrive à un âge où j'ai fait suffisamment de trucs pour m'être planté un bon paquet de fois quand même. Après, te faire la liste, te sélectionner dans la liste le truc.
Ok, 5 secondes.
Joker, je reviendrai à cette question.
Ton endroit préféré au monde?
La Camargue.
Il y a ce mot anglais que j'adore, que tu connais. D'ailleurs, je pense que c'est même toi qui me l'as appris. C'est le motto, ouais. La devise, la motivation au quotidien. Là, ce serait quoi, là, toi?
Jamais rien faire à moitié.
Et quel est ton mot préféré?
Gabriel.
Ok.
Je précise que c'est parce que c'est le prénom de mon fils, c'est pas en référence à Johnny.
Non, non. Rapidement, quelle va être l'actualité? Donc, enfin, tu l'as déjà un peu dit. Il y a, à partir de fin mars, les clips des prochains morceaux de Trank.
Ouais, les trois prochains singles de Trank, ouais, qui vont sortir, qui ont été clippés par un charmant garçon qui s'appelle Alban Verneret.
Il y a une chaîne YouTube Trank.
Il y a une chaîne YouTube Trank. Il y a un site trankmusic.com sur lequel on trouve aussi la plupart des vidéos. On avait déjà eu un premier clip qui avait été réalisé par le très très fabuleux et talentueux Jean-Baptiste Andrea.
Fantastique. On le voit tirer un 36 tonnes.
Tout à fait, à main nue.
Magnifique.
Avec une paire de Finsbury de très très grande classe.
Exactement.
Donc voilà. Les trois clips vont commencer à sortir vraisemblablement au rythme de un tous les mois à partir du mois de mars. Sachant qu'en fait, ce qu'on a fait avec Alban, ça devrait être parlé en tant que fan de Depeche Mode et d'Anton Corbijn, c'est qu'on a trouvé un moyen de lier les trois clips narrativement. Ce qui veut dire que tu peux les voir individuellement, ils fonctionnent très bien, mais si tu les vois les trois d'affilée, il y a une sorte d'arc.
Donc, pour suivre l'actualité de Trank, tu l'as dit, il y a donc le site, va y avoir les clips qui vont arriver, il y a des... Donc là-dessus seront, j'imagine, annoncés les concerts, les choses qui vont venir par la suite.
Tout à fait. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été signé sur la base de notre premier six titres qu'on a sorti fin 2016, début 2017, à titre complètement indépendant. On a été repéré par un management, en fait, qui nous a signé à la fin de l'année dernière, sous la houlette duquel on a donc enregistré les trois chansons en question et tourné les trois clips. Et le management va se servir de ça comme carte de visite pour aller nous trouver des dates.
Alors, une fois n'est pas coutume, il va y avoir une petite surprise à la fin de cet épisode du podcast. Comment dirais-je, d'une collaboration de notre travail.
Oui, ah oui, c'est vrai, oui.
Ensemble, qui est une musique que j'avais, moi, une petite chanson que j'avais écrite pour une pièce la pièce s'appelait Désaccordée.
C'est la première pièce de toi que j'ai vue, d'ailleurs.
Voilà, ouais, à Avignon.
Festival d'Avignon. Ouais.
Et c'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, de visu. Et puis, tu as eu une idée un peu folle de vouloir remixer ça. Et ça donne un morceau qui me fait toujours délirer à écouter. Donc je vais mettre ça à la suite de notre petit épisode. Alors, Michel, merci encore
merci à toi
de m'avoir permis d'échanger avec toi, parce que c'est toujours passionnant. J'espère que ça donnera envie à la compagnie qui nous écoute d'aller ouïr Trank.
J'adore comment tu dis ça.
Quant à toi, chère compagnie, j'espère que ce dernier épisode numéro 3 t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à le commenter là où tu l'auras entendu, sur iTunes ou autre plateforme, y compris mes réseaux sociaux ou même sur les réseaux sociaux là où Michel sévit. on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien. Salut la compagnie.
life.